bonne technique chez vous. Alors, ce matin, nous aurons l'occasion d'ouvrir la Bible, surtout dans l'Épître aux Corinthiens, mais avant, je vais vous lire un passage de l'Apocalypse au chapitre 1. C'est le Seigneur qui parle. « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La mort, c'est un thème que l'on rencontre plus souvent qu'on le croit. En ce qui concerne ma profession, j'en vois souvent. Ce mois d'octobre dernier, deux de mes patients sont décédés, ils habitaient la même rue. Et pendant nos vacances, j'ai appris que le directeur de la maison de retraite dans laquelle je travaille à peu près une heure par jour est décédé subitement à l'âge de 58 ans. C'est des moments qui pose des questions aux gens et qui les angoissent. On a eu le même retour au tout début d'année où notre femme de ménage, qui s'appelle Amel, qui est d'origine marocaine d'ailleurs, a été très choquée par la mort d'un de ses collègues, anciens collègues, subitement, comme cela, du jour au lendemain. Il était à la pêche et dans sa voiture, on ne le voit plus bouger. Et ses amis vont voir, il était mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est vrai que c'est peut-être traumatisant pour beaucoup. Et donc ce matin, nous allons parler d'un thème qui se trouve au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Dimanche, il y a deux semaines, nous étions au Creusot. Nous étions à Étupes. Certains d'entre vous du Creusot étaient là. Et c'est toujours agréable de se retrouver ensemble entre ce petit inter-église, hein, entre l'église d'Étupes, le Creusot, et puis notre minuscule église de Tantonville qui recrute à peu près une quinzaine de personnes, comme chez vous. Il y a quand même une ambiance très fraternelle et nous sommes capables même de faire des dons à d'autres églises, dont celle du Creusot. Ce jour-là, c'est James qui nous a donné le message, et c'est un message assez puissant autour du psaume 32 qui parle de repentance. Et James a souligné le fait que les situations de péché sont importantes à reconnaître et qu'on reste transparent dans ce domaine, qu'on ne minimise pas ces situations en disant « je fais comme tout le monde ». Et ensuite, il nous a exhortés à confesser notre péché à travers la méditation de ce psaume, puis à être docile, à obéir au Seigneur. Et à travers ce message, on a eu beaucoup d'occasions de discussion avec les uns et les autres autour de repas qui suivaient. Et on était très encouragés de parler avec Marcel, que vous connaissez tous, avec Jean-Claude Sutter aussi, et vraiment, c'est un message qui avait beaucoup touché les uns et les autres et on a eu l'occasion à table de discuter avec beaucoup de personnes. Si bien qu'avec Jean-Claude, nous avions décidé qu'on se revoie le 12 janvier à Tantonville. Il devait nous donner le message. Et vous savez ce qui est arrivé à Jean-Claude entre-temps. La semaine suivante, il a eu, lors d'une coronarographie, un examen pour voir l'état de nos artères cardiaques. Eh bien, il a eu un embol et ça a monté au cerveau, il est dans le coma. Pour vous dire que demain ne nous appartient pas. Demain est un autre jour. Nous avons eu son épouse au téléphone. Et ce qui est formidable, et c'est en ce sens que ça tient vraiment avec le thème de 1 Corinthiens 15. Janine, nous l'avons au téléphone et bien sûr, on a parlé de ses nouvelles, tout ça, mais ce qui frappe les chrétiens, quand on est chrétien, c'est que son message, c'était « je sais en qui j'ai cru ». C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr de la peine, il y avait de la souffrance, il y avait de l'inquiétude, mais il y avait aussi cette paix que seul le Seigneur peut donner dans des situations comme celle-là. Et c'est vrai que je repense à mes collaboratrices et les infirmières à la maison de retraite ou ces aides-soignantes suite à la mort subite de cet homme de 58 ans qui était leur directeur. On a vraiment le privilège d'avoir un Dieu tout-puissant et qui nous apporte une paix même dans les circonstances. Ça a été même, en ce qui concerne Janine, elle a dit « je pense aussi à vous, à votre église et aussi à vos sujets de prière ». Il n'y a que les chrétiens qui peuvent parler comme ça et c'est les chrétiens qui sont en communion avec le Seigneur. Voilà, c'était une courte introduction. Vous savez que je suis bavard. Certains vont sûrement regarder leur montre à partir d'une certaine heure. Je vais être plus court que la dernière fois. Voici, j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui, quiconque croit, vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? J'étais heureux de voir ce matin qu'on avait ouvert la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 6, et c'est aussi là que j'avais aussi puisé exactement les versets 39 et 40 que nous avons lus tout à l'heure. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque vit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, eh bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous le désirez, au chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et la première partie, ce sera Christ est réellement ressuscité. La deuxième partie, si vous voulez déjà avoir un peu le plan, c'est que la résurrection de Jésus garantit notre régénération et notre justification. Et la troisième partie, si vous n'êtes pas trop fatigué, ce sera, eh bien, la résurrection de Jésus garantit ma propre résurrection ou notre propre résurrection. Voilà, vous avez le plan, on peut relire les 11 premiers versets de du chapitre 15, la première épître aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'a apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Ici, Paul est obligé de rappeler à ces Corinthiens qui sont, où c'est une église assez particulière, assez indisciplinée, où il y avait beaucoup de problèmes. Je vous rappelle, c'est-à-dire je vous confirme, je vous fais connaître à nouveau ce que je vous ai déjà annoncé. C'est-à-dire que dans ce passage, Paul insiste sur le fait de dire que Christ est réellement ressuscité. C'est une vérité historique, je vous ai transmis en premier lieu ce que je vous enseigne avant tout, c'est que ce que j'avais reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité. Et au fond, c'était le premier message de la première église. Hein, c'est ce qu'on appelle une proclamation. La proclamation originelle de la première église, c'était ça, Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. C'est vraiment le message de base. Pour ceux qui ont fait des études de grec ou qui aiment le grec, ça s'appelle le kérygme, Kérygme. C'est-à-dire ces trois choses, tout simple. Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité. C'est une nouvelle, c'est une information, on pourrait dire, c'est une annonce de fait historique. Christ est réellement ressuscité. Et au fond, Paul est obligé de rappeler ces choses aux Corinthiens. Et il rappelle que la croix est le centre de la proclamation de l'Évangile au départ. Et encore pour nous aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et il souligne, il l'a déjà souligné avec force, Dans cet épître aux Corinthiens, Paul n'a parlé de la résurrection avant le chapitre 15 qu'une seule fois. Il a parlé surtout de la croix. Il a parlé de que la croix qui est un scandale pour le juif et qui était une. Vous connaissez ces passages, je vais les lire avec vous rapidement. C'est chapitre 1. Les juifs demandent des miracles, les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Au chapitre 2, il commence de la même façon en disant pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, avec du baratin, avec la sagesse que vous prisez, puisque vous, dans votre ville grecque, il y a tellement de sages. Je suis allé vers vous avec un seul témoignage, savoir Jésus-Christ crucifié. Donc, la prédication de la croix était au centre du message de Paul et au centre du message des apôtres. Christ est mort. Christ a été enseveli et ensuite Christ est ressuscité. Et ici, il précise au chapitre 15, je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, verset 3, que Christ est mort pour nos péchés. Donc Christ est mort, crucifié, mais pour nos péchés, c'est-à-dire que la mort de Christ nous concerne tous personnellement. C'est pour mes péchés, selon les Écritures. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas venu comme ça par hasard, ce n'est pas un coup de malchance, c'était prévu dans le plan souverain de Dieu, dans son plan de salut pour les hommes, selon les Écritures. Donc la mort de Jésus était annoncée dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que Jésus, pardon, révèle aux disciples d'Emmaüs. Quand vous lisez le chapitre 24 de l'Évangile de Luc, après la résurrection du Seigneur, ces trois hommes qui font chemin ensemble vers la cité d'Emmaüs, il y a le Seigneur au milieu de ces deux, et il leur explique les Écritures, et il leur montre que le Seigneur devait souffrir ces choses, ensuite ressusciter pour rentrer dans sa gloire. Donc Christ est mort selon les Écritures. Relisez Ésaïe 53, que vous connaissez sûrement. Relisez Genèse 22 et d'autres passages, en particulier dans les psaumes. Donc Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et donc ça m'interpelle personnellement. Ensuite, il a été enseveli, et donc là, c'est bien indiqué dans la parole de Dieu, où on voit des femmes qui arrivent au tombeau, enfin déjà avec l'ensevelissement, et puis ensuite, quand elles vont au tombeau, eh bien qu'est-ce qu'elles voient? Le tombeau est ouvert, donc Christ est ressuscité. Selon les Écritures, et toujours le troisième jour, Christ l'avait prédit, Christ l'avait dit, et la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament aussi, l'avait souligné. Et donc, quand vous lisez, par exemple, Matthieu 16, ou d'autres passages comme celui-là, le psaume 16, le psaume 22, Ésaïe 53 encore, où on voit le serviteur souffrant qui ensuite va être souverainement élevé. Donc la première partie de cette méditation sur la résurrection, c'est que c'est un fait historique. Christ est réellement ressuscité. Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est réellement ressuscité. Et donc Paul, ensuite, après avoir rappelé à ses Corinthiens, eh bien, cette vérité historique, il leur dit, mais il y a des témoins. Et il les cite les uns après les autres jusqu'au verset 11 où il parle aussi de lui-même. Donc tous ces témoins oculaires sont là pour dire vraiment Christ est réellement ressuscité. Et vous savez que pour des Grecs, c'était une folie. Quand Paul prêche à Athènes et qu'il commence à parler de la résurrection, tout le monde se disperse et tout le monde s'en va. Parce que pour les Grecs, c'était quelque chose d'aberrant. On en parlera un tout petit peu plus loin. Donc la première partie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La résurrection de Christ est un fait historique. C'est une nouvelle, pas seulement une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle. C'est une information sûre. Et c'est là-dessus que Paul va continuer ensuite sa démonstration. Et on s'arrêtera au verset 20 ce matin. La deuxième partie, si vous voulez que... Pour moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que la résurrection de Christ, puisque Christ est ressuscité, qu'il est réellement ressuscité, quelles en sont les conséquences pour nous? Et on va en citer trois. La première, ou les deux premières, c'est que la résurrection de Jésus garantit ma régénération. Et la résurrection de Jésus garantit ma justification. Si Christ n'est pas ressuscité, comme on va le voir après, ben, ma foi est vaine. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, c'est le verset 3, où il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc Pierre fait vraiment le rapprochement entre la régénération et la résurrection de Christ. Alors qu'est-ce que la régénération? Ce matin, on va faire un peu de théologie. C'est important de rappeler ce que c'est, ce que sont les choses, tout comme qu'est-ce que la justification, mais on va... J'ai pas mis ma montre là. On va pas trop... La régénération, c'est un petit rappel, la régénération précède la foi. Et la régénération, si vous voulez, c'est l'acte souverain de Dieu qui nous fait naître de nouveau et qui nous rend capables de croire. Par nature, contrairement à ce que l'on peut croire, on est incapable de nous approcher du vrai Dieu. Il faut qu'il s'approche de nous pour qu'on puisse croire et pour qu'on puisse réaliser petit à petit le connaître et puis quels sont la profondeur et les merveilles de son amour et de son œuvre pour nous. Par nature, et nous qui sommes d'anciens catholiques, nous le savons, enfin je dis nous, mon épouse et moi-même, on s'invente un Dieu, on se fabrique un Dieu qui correspond à ce qu'on est capable de comprendre. Il faut que Dieu vienne vers nous et qu'il nous régénère pour qu'on le puisse croire vraiment au vrai Dieu. Ça, c'est la régénération. Et pour, si vous voulez dire quelques passages, vous avez Nicodème, quand il pose des questions à Jésus dans Jean chapitre 3, et Jésus lui dit, mais tu ne connais pas ces choses, toi qui es docteur en Israël, toi qui es un grand rabbin d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il dit, l'Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix. Et ensuite, le Seigneur, toujours dans Jean 6, hein, Jean 6 était mis à l'honneur ce matin, et on aura l'occasion de reciter les deux versets de 39 et 40, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, si nous sommes ici et que nous avons été attirés par le Seigneur, c'est Dieu qui nous a attirés vers lui. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous avez aussi ce passage d'Éphésiens chapitre 2 où il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus vivants. » C'est lui qui a pris l'initiative de nous rendre vivants. Voilà ce que c'est que la régénération. Quel rapport entre la régénération, justement, et la résurrection? Mais sans résurrection, à quoi nous sert la régénération? Et c'est en ce sens qu'il est important de réaliser qu'il y a un lien, et ce lien, l'apôtre Pierre le fait très bien en disant « Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Parce que par sa résurrection, quand Jésus-Christ est ressuscité, il nous a acquis une vie nouvelle semblable à la sienne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être un petit peu intellectuel, mais c'est une vérité biblique. Nous ne recevons pas tout de suite tous les effets de notre vie nouvelle, on le sait, hein. Et les personnes qui ont des cheveux blancs parmi nous savent qu'avec le temps qui passe, il y a la faiblesse, il y a le vieillissement, puis ensuite il y a la mort. Mais nous sommes vivifiés dans notre esprit, et c'est ça qui est important, vivifiés dans notre esprit pour une vie nouvelle, pour une nouvelle puissance de résurrection. Et cette puissance de résurrection, Jésus-Christ, Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ déjà. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Éphésiens. Nous allons voir dans l'Épître aux Éphésiens, surtout le chapitre 2 et ensuite le chapitre... Il faut que je prenne des repères, sinon je vais perdre mes pages. Éphésiens chapitre 2 et chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous est dit au chapitre 2? Un passage que on connaît tous et qu'on a peut-être du mal à interpréter. Les versets 4, 5, mais surtout 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Donc il nous a rendus vivants et il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous dit que le but de sa vie, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et petit à petit, vous allez comprendre que cette puissance de résurrection, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas faire sa demeure en nous. Donc, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu, qui nous a permis que cette régénération soit vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Sinon, à quoi auraient servi toutes ces choses? Donc Paul savait que, comment dire, cette puissance de résurrection était importante pour que on puisse être capable de servir Dieu, mais aussi capable de le suivre et d'obéir. Par nature, on est absolument incapable de ça. Et on va lire justement ce passage que j'aime beaucoup de cette épître aux Corinthiens, au chapitre 1, où Paul prie pour ses frères d'Éphèse, à partir du verset 16, où il dit: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 16, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » C'est déjà magnifique tout ça, on a du mal à suivre, hein? Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je relis le verset 19. Qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc la puissance spirituelle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la Bible nous confirme que c'est la même puissance que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on a des vies en rapport avec notre statut? Nous avons été régénérés. De dégénérés que nous étions, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, elle a été faite par la puissance du Saint-Esprit. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut que je prie pour vous que compreniez qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Il y a ces choses-là, on les écoute, mais on n'en prend pas toute la mesure et tout le sens. Mais c'est voilà les cadeaux que Dieu nous fait. Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, a fait en sorte que cette régénération soit vécue dans la puissance de la vie nouvelle qui est en Christ. Et ce n'est pas des mots, c'est nous avons une puissance en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je vous enverrai une puissance, dit Jésus au début des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous connaissez tous ces passages. Soulignez Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20, ça vous fera du bien. J'ai souligné que le verset 19, je vais finir par celui-ci. C'est très important de se rappeler notre statut, surtout quand le péché est là, qu'on s'est éloigné, et surtout quand le diable en rajoute une couche, en disant ah, tu vois, hein. Eh bien, rappelons-nous, trouvons les versets pour que le Seigneur nous rappelle que cette puissance de régénération, il l'a vraiment mis en nous. Et cette puissance nouvelle qui est donc le Saint-Esprit, eh bien, elle est là aussi pour nous par rapport au péché, à la lutte contre le péché. C'est vrai que nous ne serons jamais parfaits ici-bas, mais nous irons de victoire en victoire avec la puissance qui agit en nous. Et aussi, et cette puissance qui est en rapport avec, ouais, la même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est extraordinaire. Et en même temps, pour notre service chrétien. L'apôtre Paul, quand on voit son punch, quand il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile », et quand il exhorte Timothée à ne pas avoir honte de l'Évangile, quand on voit la vie qu'il a eue et son désir de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, eh bien, le Saint-Esprit l'a exaucé, hein. On peut vraiment dire qu'on a là aussi un modèle. D'ailleurs, dans cet épître aux Corinthiens, Il se pose à plusieurs reprises en modèle, en disant « Soyez mes imitateurs hein, », non pas avec orgueil, mais parce que ça, voilà, la puissance de Dieu était en lui et elle est aussi en chacun d'entre nous. Donc, ce que je viens donc de vous dire, c'est que eh bien, la résurrection de Christ garantit notre régénération. C'est important, parce que tout le monde, on connaît bien Jean 3,16, hein, « Il faut naître de nouveau ». Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle est vraiment en lien avec la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. Et c'est cette puissance que Dieu a mis aussi dans notre cœur. Et cette puissance de la résurrection de Christ garantit aussi ma justification. Alors là aussi, on va vite rappeler ce que c'est que la justification. C'est moins long. La justification, c'est le fait, aux yeux de Dieu, de ne plus être déclaré coupable. Nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu, mais nous sommes juste devant lui. Alors n'importe quel catholique, n'importe quel moine catholique, surtout, hurlerait en disant, alors à quoi ça sert que je fasse toutes ces privations? C'est vrai. Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ. Il nous regarde comme justes. Quand vous lisez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, le verset 25, Paul nous rappelle que Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et si vous avez peur d'oublier ce verset, il suffit de regarder la croix qui est juste là et vous avez marqué ce verset sur cette croix. Donc vous pourrez vous en rappeler. Oui, je vous donne même des trucs pour qui existent déjà chez vous. J'étais content de voir ce matin que le verset que j'allais citer. Eh bien, tu es déjà inscrit, donc que du bonheur d'être au milieu de vous, parce que j'ai déjà préparé mon message, c'est bien. Et aussi mon frère Abdel, là, quand il a commencé à lire Jean 6, j'ai dit, c'est pas possible, il est inspiré par le Saint-Esprit. Des fois, ça nous arrive avec Antoine, mon ancien. On ne se parle pas et on prie d'une façon, et lui, il commence son message et ça correspond, parce que ça, c'est à la gloire de Dieu, hein, c'est pas du tout. Avec des super-man chrétiens, ça n'existe pas. Donc Paul nous rappelle que Christ a été livré pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, et c'est très important, que en ressuscitant Christ d'entre les morts, je vais essayer de parler moins vite, ma femme m'a pas encore fait les gros yeux, tu parles un peu vite là. En ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu a comme déclaré publiquement, hein, si on peut dire ça comme ça, qu'il approuvait l'œuvre de Christ. La résurrection de Christ, c'est la preuve que Dieu a approuvé son sacrifice. Et comme Dieu a approuvé son sacrifice, eh bien, l'œuvre qu'il a faite, il l'approuve aussi. C'est-à-dire qu'il n'y est plus nécessaire maintenant, il n'y a plus aucune peine à subir pour Christ. Pour nos péchés. Il n'y a plus de colère de Dieu pour le péché. Tout est accompli. Il n'y a plus de culpabilité. Et donc, au fond, c'est vraiment, ouais, c'est merveilleux de réaliser ces choses. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, c'est comme si le Père disait, voilà, j'approuve tes souffrances et j'approuve tout ce que toute ton œuvre, elle est achevée. Il n'est plus nécessaire que tu restes dans la mort. C'est terminé. Donc, Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et au fond, ça veut dire que tout est payé. Et en ressuscitant Christ d'entre les morts, eh bien, il dit non seulement j'approuve ce que tu as fait, tu as trouvé grâce à mes yeux, mais j'approuve ce pour lequel tu l'as fait. Et c'est ça qui est important aussi. Donc, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu l'a déclaré juste, mais surtout il nous a déclaré juste avec lui. Bon, vous savez bien que Christ était juste de toute éternité, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un péché en lui, mais quand même, dans ce drame de la croix, dont on a quelques prémices déjà au jardin de Gethsémané, on voit toutes les souffrances de Christ d'être séparé de son Père et de subir à notre place l'enfer, parce qu'il a subi à notre place l'enfer. Et donc, en le ressuscitant des morts, oui, c'est ça, eh bien, il le déclare juste, non pas que Dieu le Fils n'était pas juste, mais il dit, voilà, tout est accompli. Et donc, tous ceux pour lesquels tu es mort, ils sont aussi justes à mes yeux. Tous ceux qui auront cru. cru en toi. Et donc, voilà, j'ai marqué là dans mon petit papier qu'il faut que je lise, alors je vais lire. Nous sommes rendus juridiquement justes devant Dieu par l'œuvre de Christ à la croix. Et nous savons que Dieu a approuvé cette œuvre rédemptrice de Christ, car il l'a ressuscité des morts. Donc nous sommes au bénéfice de son œuvre. Et voilà cette bonne nouvelle. La résurrection de Christ, c'est le témoignage que notre régénération a été rendue possible et complète et que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous est aussi attribuée. Et en même temps, pour notre justification, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, garantit notre justification, puisque nous sommes justes maintenant aux yeux de Dieu. Puisque Christ est mort, il est ressuscité et Dieu est dit, c'est terminé pour le péché, tu n'as plus à rester dans la mort maintenant. Il l'élève enfin, il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom et que vous connaissez. Donc voilà, c'est ce deuxième aspect. Christ est réellement ressuscité, c'est très important. Et s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, on va le voir rapidement, si possible, avec moi. Et en même temps, la résurrection de Christ garantit le fait que je suis régénéré et non plus dégénéré, et que je suis aussi justifié. Dieu me voit comme juste. Ce sont des cadeaux que Dieu nous a faits dans la personne de Christ et il l'a payé à un grand prix, comme vous le savez. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est toujours dans cette même épître aux Corinthiens. Troisième partie et dernière, c'est la résurrection de Christ qui garantit ma propre résurrection. Et pour cela, on est obligé de lire ce que Paul est obligé de rappeler à ces chrétiens de Corinthe dans les versets 12 à 19, et puis on terminera sur le verset 20. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je suis bien obligé de vous le rappeler parce qu'il y a des mouvements chez vous où on dit un peu n'importe quoi et on veut croire n'importe qui. Et à partir du verset 12, Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se retrouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité des morts, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le problème chez les Corinthiens, c'est que ils étaient quand même assez pollués par toutes les philosophies grecques, et au fond, chacun se faisait un petit peu sa sauce. Et ici, on voit que certains parmi eux ne croyaient pas en la résurrection des corps. Parce que c'est de la résurrection des corps dont il est question ici, et dont il va être question jusqu'à la fin de ce chapitre. Et donc, Paul s'étonne que les Corinthiens, ne connaissent pas encore, ou ne croient pas encore à la résurrection des morts, en tout cas certains d'entre eux. Et tout ça, c'est un peu dû à les influences de la philosophie, enfin des philosophies grecques, on peut dire. Parmi les philosophies de l'époque, on peut en citer quelques-unes, comme les épicuriens. Les épicuriens, c'est une race qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, mangeons et buvons, et demain nous mourrons. On ne voit plus ça aujourd'hui. Plus du tout à la mode. Hein, on voit bien que nous, maintenant, nous sommes beaucoup plus. On vit exactement là-dedans. Hein. La plupart des gens que vous rencontrez, résurrection. Hein. Non, on va dans le grand trou, dans rien. C'est pour ça que moi d'abord, les autres après, ici et maintenant, comme disait le président, enfin, pas celui-là, mais un autre. Et bien sûr, tout de suite, hein, parce que c'est trop court. Il suffit que vous rencontriez un camion en plus et ça se raccourcit. Hein. Donc, ça, c'était les épicuriens. On profite de la vie. Elle passe trop vite. C'est nous aujourd'hui. Puis il y avait ce qu'on peut appeler les platoniciens, c'est-à-dire que. Là, c'est surtout chez les cathos qu'on a trouvé ça, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Le corps est une prison. C'est mauvais, le corps. C'est Platon, tout ça. Hein? C'est-à-dire, c'est le corps, c'est la prison de l'âme. L'âme seule est immortelle, et donc le corps n'a pas de valeur. Alors, fais-en ce que tu veux. Fréquente des prostituées si tu veux, bois, fais ce que tu veux de ton corps, ou bien flagelle-le pour. Hein, ça, c'est un peu toutes les mystiques cathos du 17e et du 16-17e siècle, entre autres, mais enfin, déjà avec eux, même avec des gars comme Charles de Foucault, on a encore toutes ces choses-là. Et peut-être encore aujourd'hui avec JPD, qui est mort, enfin Jean-Paul II, ou bien. Vous voyez, c'est toute cette mentalité, c'est très platonicien, c'est-à-dire que la résurrection des corps, le corps, c'est pas important. Et puis il y avait les spiritualistes, et là, les spiritualistes, on en trouve encore beaucoup. Ici, dans les églises, même évangéliques, où on fait de l'ascèse. Bon, si c'est pour votre corps, pour avoir une ligne géniale, puis ça peut faire du bien. Mais hein, c'est le salut consiste à s'élever. À faire de l'ascèse, à avoir, oui, pour que notre esprit soit de plus en plus au parfum avec ce que Dieu veut, etc. Et donc, il y avait aussi cette tendance à Corinthe, où certains pensaient qu'ils étaient déjà ressuscités. Hein, Paul est obligé de leur dire, sans nous, vous avez déjà commencé à régner. Il dit, attendez, la résurrection des corps n'est pas encore arrivée. Et donc, il y avait toutes ces influences. Et donc, certains croyaient absolument pas à la résurrection des corps, ou certains pensaient que c'était l'âme qui était plus importante, etc. Et donc, pour ces Corinthiens qui sont quand même d'origine grecque, il y avait quand même certaines difficultés. Et Paul leur rappelle, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est le premier verset, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Alors pourquoi certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts? Eh bien voilà les conséquences d'une telle folie si Christ n'est pas ressuscité des morts, et si les corps ne ressuscitent pas, et si vous ne ressuscitez pas, alors votre foi est vaine. À quoi ça sert que Christ soit mort pour vos péchés? S'il n'y a pas d'avenir, ensuite, s'il n'y a pas d'avenir aussi dans un corps de ressuscité, et donc, notre prédication est vide, c'est-à-dire elle n'a aucun contenu. Ça sert à rien qu'on vous ait parlé de la résurrection de Christ si vous ne croyez pas en votre propre résurrection. C'est sous-tendu la résurrection de Jésus, qui est un fait historique, qui est la garantie de votre régénération, qui est la garantie de votre justification devant Dieu, et donc qui est la garantie du fait que vous soyez maintenant enfant de Dieu. Ben, la résurrection de Christ, elle garantit aussi votre résurrection. Sinon, à quoi ça sert? Vous partez dans le vide, vous partez dans le néant. Alors, l'œuvre de Christ, à quoi a-t-elle servi? Et voilà la démonstration que Paul est obligé de leur faire. Ça vous semble peut-être évident, tout ce que Paul dit là, en disant, mais moi, je n'ai jamais cru ça. Mais au fond, il leur fait comprendre que sinon, les apôtres sont de faux témoins et que leur foi est vaine. Et donc, il n'y a plus d'explication. Plus de nécessité ou plus de valeur dans la croix de Christ et plus de valeur dans l'expiation des péchés. Il n'y a plus besoin de justification et de toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il est obligé de les reprendre pour dire, mais la résurrection du Seigneur, c'est la garantie de votre résurrection et de la résurrection de votre corps, parce que nous savons que la Bible nous apprend que nous vivrons dans un corps renouvelé avec le Seigneur pour l'éternité dans un nouveau cosmos ou dans un nouveau ciel et nouvelle terre. Et que voilà le projet de Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il dit au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité. Tout ce que j'étais obligé de vous dire entre les versets 12 et 19, c'est à cause de votre incrédulité ou à cause de votre pollution intellectuelle et philosophique. Mais Christ est vraiment ressuscité et il est le premier-né de tous ceux, eh bien, qui ensuite ressusciteront de tous ceux qui sont morts. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle qu'il fallait à ces Corinthiens, en tout cas, les rappeler vraiment à l'ordre. Christ est réellement ressuscité. Et il est comme les premiers fruits de la moisson à venir. Et nous ferons partie de cette moisson à venir d'hommes et de femmes ressuscités. Spirituellement, nous sommes déjà ressuscités. Aux yeux de Dieu, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous faisons déjà partie de sa famille. Mais un jour, Dieu va ressusciter notre corps mortel. Et je regarde mon frère Jean-Louis, il sera encore plus beau qu'aujourd'hui. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. La résurrection est souvent un thème dans les églises évangéliques qu'on aborde rarement parce que on insiste à juste titre sur la croix. Parce qu'une des grandes erreurs de l'Église catholique, c'est de mettre comme summum la résurrection et d'évacuer la croix. Si on ne comprend pas la croix, on ne peut pas comprendre la résurrection. Mais il est important quand même de réaliser que nous sommes dès à présent ressuscités avec Christ, que nous avons cette vie nouvelle, cette puissance qui est le Saint-Esprit en nous, c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et j'arrête ma petite... C'est une petite fille ou un petit garçon ?
Un garçon.
Un garçon. Mon petit... Patience, j'y arrive. Voilà, et donc je vais vous relire avec vous, et c'est pour ça que j'étais content ce matin que Abdel nous lise Jean 6. Et je vais vous relire ces deux versets, versets 39 et 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. C'est Dieu qui nous a donné. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui nous a régénérés. C'est lui qui a pris l'initiative. Et comme nous étions dégénérés, il a payé le prix dans la personne du Fils de notre régénération. Il n'a pas fait comme ça. Avec une ardoise, et puis on prend une éponge et on efface comme ça. Christ a payé le prix fort. Mais c'est très intéressant. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perds aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, eh bien, il est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, celui et celle qui possède cette espérance vivante, eh bien, est en paix. Je vous ai parlé de Jeannine tout à l'heure. Eh bien, il y a de la paix chez les chrétiens, devant les épreuves, devant la mort, parce que nous savons que ces choses sont vraies et nous savons les retrouver là, dans la parole de Dieu, au moment où il nous le faut. Et le Saint-Esprit qui est en nous témoigne à notre esprit que nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous sommes vraiment sauvés par grâce. Et bien que la gloire lui en soit rendue à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.